opérationnelle, donc on a aucune prise. Nous ne sommes pas des psychiatres. Il faudrait encore aller plus loin pour essayer de comprendre d'où vient.
Il y a la thérapie de choc.
Il y a plusieurs questions. Il y a ici Alfred, oui. Et ensuite Madame.
Je suis assez d'accord avec Stéo, la ville de la guerre à dire. C'est très intéressant au niveau de l'argumentation qui effectivement va se renouveler. Néanmoins, j'ai quand même en tête un certain nombre de choses où j'ai vu des hommes politiques français dire on suit les Américains, on suit les dirigeants américains. Et lorsque tel député européen n'a pas été contacté, à un moment donné, j'ai eu un mail, bon, par erreur, j'ai reçu la conversation qu'elle avait eue avec quelqu'un d'autre, où il y avait marqué carrément qu'il faut attendre de voir ce que disent les États-Unis. Donc, ils perdent effectivement leurs moyens, comme vous avez dit. Mais bon, l'État d'Israël, c'est quand même un système qui est en place au Moyen-Orient, qui pour le moment, peut-être pour longtemps encore, va faire les affaires des États-Unis. Donc, on ne peut pas non plus faire abstraction de ça, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bonjour. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous considérez ou est-ce que vous pensez que la solution de deux États est juste pour les Palestiniens ? Et sinon, quand beaucoup des Arabes le pensent, qui demandent en fait l'annulation de l'État d'Israël, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, j'ai une question que je me pose toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire des peuples qui vivent maintenant, des Israéliens qui vivent et qui sont nés en Israël ? Comment on peut résoudre ce problème ? Merci.
Avant de donner la parole à Jean-Claude, juste une petite information pratique. À partir de 7h, les portes sont fermées devant. Si vous voulez sortir, il reste uniquement la porte de droite et un petit bouton sur la droite sur lequel...
Sur ce que tu viens de dire à propos de Sarkozy et de l'incompréhension et de l'irrationalité qui serait la sienne, là je suis en complet désaccord. Parce que je pense que ces dirigeants, et le cas de l'Allemagne, que tu n'as pas cité d'ailleurs dans les pays européens, alors qu'il y a eu un scandale là avec Günther Grass récemment qui est très significatif, mais Israël a toujours été, c'est une expression je crois qui vient de Michel Wachowski, hein, c'est la villa dans la jungle. Et c'est l'ultralibéralisme au milieu des Arabes. Donc, c'est un point de force du contrôle capitaliste du monde. Hein. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Tous les gouvernements qui soutiennent Israël, ils savent ce qu'ils font. Ils défendent actuellement l'ordre libéral capitaliste mondial. Et ce n'est pas du tout irrationnel. Au contraire, c'est très rationnel.
Sur les États-Unis, si la question était sur l'abstraction, c'est ça ?
Non, c'est le rôle des États-Unis.
Le rôle des États-Unis.
C'est sur les politiques françaises. L'influence.
L'influence des États-Unis sur la. Sur
Sarkozy.
Bon, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de la politique américaine, sauf quand elle concerne un peu le Moyen-Orient, je suis. Je préfère pas entrer dans des détails que je maîtrise pas bien sur la France et les États-Unis. Sincèrement, je connais pas bien sur la. Donc, vous m'excuserez, mais sur la question sur les deux États est-ce que c'est juste pour les Palestiniens ? Non, ce n'est pas juste. Sans doute que ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas juste qu'on ne doit pas accepter ou qu'on ne doit pas faire. Moi, je trouve que par respect à l'histoire et à l'histoire de surtout à ma famille, évidemment, ça serait pas juste. En revanche, si demain il y a deux États il faut voir quel genre d'État donnera-t-on aux Palestiniens. Mais je n'y crois pas de toutes les façons. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il n'y aura pas de deux États. Et s'il y a un deuxième État pour les Palestiniens, ça sera un petit truc, juste pour dire que voilà, il y a une espèce de canton qu'on appelle Palestine, et puis ça sera tout. Sur l'élimination d'Israël, je crois qu'on n'en est pas là. Il n'y a aucune force aujourd'hui au Moyen-Orient, encore moins les Palestiniens, qui serait capable de, par la force, de finir avec Israël. Ça, c'est pas
le...
On a la résistance palestinienne.
S'il n'y a pas les États-Unis pour les soutenir, il est égal.
A fait ce qu'elle pouvait à un moment donné de son histoire. On n'entrera pas dans les détails. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup d'ennemis. Elle avait le monde arabe quasiment d'une partie. Une partie du monde arabe était avec elle, et l'autre partie était contre elle. Donc c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, que le 40 ans d'histoire de résistance palestinienne aujourd'hui montre que nous avons pas réussi à libérer la terre palestinienne, et nous n'avons, pour être plus honnête, nous n'avons pas libéré un seul mètre carré de la terre palestinienne, pour des raisons diverses qui seraient très longues. D'ailleurs, ça, ce sont des objets intéressants aussi à discuter dans d'autres moments. Parce que c'est vrai que ce sont des choses dont on discute très peu, parce que ce n'est pas l'urgence, c'est le passé, c'est bon. Mais les Palestiniens ont beaucoup perdu. Tout le monde a en mémoire Tal Zakar, les Sabra et Shatila. Mais les Palestiniens ont aussi fait beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises dans leur comportement, en Jordanie, au Liban, plus tard. Donc il y a eu... Moi, j'ai vécu, j'étais jeune lycéen, quand il y a eu Septembre Noir, je l'ai vécu. Bon, c'était pas facile pour les Palestiniens, y compris la population palestinienne. Mais il faut dire que Septembre Noir, c'est aussi dû à des bêtises de la révolution palestinienne. Mais ce sont d'autres sujets qui méritent, comme je viens de le dire, beaucoup de discussions. Mais c'est certainement pas aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup l'expression de la ville dans la jungle. Effectivement, Israël est la villa dans la jungle. Maintenant, c'est là où je n'adhère pas à quoi ? Je n'adhère pas lorsqu'on résume la situation seulement à une question de capitalisme et de finances. Je ne crois pas. Sans doute, le capitalisme joue son rôle, mais le capitalisme survivra très bien sans Israël et continuera à œuvrer partout dans le monde, même si Israël n'est pas là ou si Israël n'était pas là. Mais que le capitalisme s'intéresse à Israël et à tout ce qui se passe autour d'Israël, je suis bien sûr. Que Israël soit la villa dans le jungle, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi ça. D'ailleurs, bon, tout le monde connaît l'histoire aussi. Lorsque Israël s'était proposé d'être le pont de la civilisation. Oui, bien sûr. Mais le monde a changé aussi depuis. Le monde a changé. Et Israël, aujourd'hui, il n'est pas seulement pour servir ceci ou cela. Il est essentiellement là pour se servir. Son problème, c'est finir avec les Palestiniens. Non pas pour faire plaisir aux Américains, ni pour faire plaisir aux Français. C'est pour se faire plaisir et accomplir son projet. Son projet, c'est la Palestine entière pour Israël. Voilà. Et ça, c'est bien sûr. Alors, si l'Amérique ne sera pas contre, si les conditions se le permettent, la France non plus, Voilà, donc là-dessus, on est, je pense qu'on est, on est d'accord, bien sûr, totalement. Peut-être, quelques mots sur les prisonniers, parce qu'ils méritent, si vous voulez bien. Ah, pardon, Michel.
Oui, Michel.
Parce qu'après, les prisonniers,
une correction, je voudrais faire et une petite remarque. La correction, c'est qu'Israël est une villa au cœur de la jungle, c'est pas mon expression. Je l'ai souvent cité, elle vient de Ehud Barak. C'est le langage raciste typique de Ehud Barak. À savoir, Israël, c'est un îlot de civilisation, de modernité, de progrès, dans une jungle qui nous entourait, faite d'animaux féroces. Et sauf que Ehud Barak, une fois de plus, se trompe. Si Israël, c'est-à-dire, fait son image extrêmement contre-productive, de son point de vue, parce qu'une villa au cœur de la jungle, ça ne tient pas longtemps. Je ne connais pas dans l'histoire de villas qui ont réussi à se maintenir dans une jungle qui est vivante, qui avance. Alors on peut brûler tout autour, on peut faire même un mur de 8 mètres de haut, finalement c'est la jungle qui gagne. Ça c'est au niveau de la remarque de c'est la villa au cœur de la jungle, cette phrase qui n'est pas de moi, mais que je cite, mais qui vient de Ehud Barak. Deuxième chose, c'est une remarque plus générale par rapport à cette commémoration qui se fait ici à Strasbourg, et dans laquelle je vois, et c'est pas que à Strasbourg, c'est à Washington, à Boston, à Londres, en Italie, c'est que j'ai le sentiment qu'on est sorti, on est en train de sortir d'une période, et ça c'est dans la continuité de ce que vient de dire Nabil, d'une période où on a résumé le conflit israélo, le conflit en Palestine, à une question territoriale et de frontières. Il y a un conflit entre deux États, ou un État qui existe et un État qui n'existe pas encore, et ça fait maintenant, c'est ça tout le processus d'Oslo, où on définirait une frontière et une nouvelle partition de la Palestine historique entre deux États, comme si c'était une question territoriale, et on a évacué la question coloniale, qui est le cœur, qui est le conflit. C'est un conflit colonial, un conflit, comme le dit Nabil, qui, comme tout processus colonial, vise à effacer l'existence, la légitimité, voire l'existence nationale, voire parfois même l'existence physique de la population autochtone, de la population indigène, des Arabes de Palestine. Et quelque part, j'ai le sentiment, en écoutant, non, plus qu'en écoutant, ces dernières années, mais cette année en particulier, on a très peu célébré le 5 juin, il y aura très peu d'événements, qui a été pendant longtemps le moment de la question de la Palestine, le 5 juin, parce que c'est l'occupation des territoires occupés. Par contre, on recommence à célébrer le 15 mai, qui est celui de la déclaration de l'État d'Israël, mais qui est aussi la journée de la Palestine, c'est-à-dire celle qui marque l'effacement de la Palestine, la destruction de la Palestine et la construction d'Israël. Et quelque part, on revient au problème fondamental après plusieurs dizaines d'années où, et ça fait partie aussi du discours sioniste, on a réussi à évacuer 1948, à évacuer la Nakba, à évacuer l'effacement de la Palestine et en faire une question territoriale de Cisjordanie et de Gaza.
Rapidement, alors quelques chiffres sur les prisonniers. Je me suis je m'intéresse à la question des prisonniers depuis longtemps, d'autant plus que j'ai un proche très, très proche qui prison, mais israélienne. Le contexte, donc il s'agit bien d'une, comme d'ailleurs tu viens de le dire, Michel, il s'agit bien d'une force d'occupation qui dont les djibs, les chars passent là où ils veulent, partout, et ils ramassent qui ils veulent. Ils sont allés même plus loin, il y a 2 ans, ils demandent la carte d'identité gens qui... parce que tout le monde n'a pas une carte d'identité comme étant citoyen, enfin citoyen, le mot citoyen ne fonctionne pas ici, il n'y a pas de citoyen en Cisjordanie, il n'y a pas de citoyen, puisqu'il n'y a pas d'État. Mais alors, donc les gens n'ont pas de carte d'identité, ils sont nés là, ils ont vécu là, on les ramasse et on leur demande des cartes d'identité, alors qu'il n'y a pas de carte d'identité, ça n'existe pas. Et à moins d'avoir la carte d'identité donnée par la police israélienne. Toute personne, y compris un vieux ou une vieille qui n'a jamais pensé à, qu'il faut qu'elle aille dans les, chez, la, chez les forces d'occupation pour, avoir, pour pouvoir vivre là où il a toujours vécu. Et alors, 4653 ils sont actuellement, le nombre de prisonniers politiques palestiniens en mai 2012. Ce chiffre rapporté à la population équivaudrait à près de 70 000 prisonniers politiques en France. Je parle de prisonniers politiques. Politique. Dit politique. Israël ne le reconnaît pas comme étant prisonnier politique. Ils sont tous des terroristes. Entre 700 000 et 750 000, le nombre de Palestiniens qui sont passés par les prisons israéliennes depuis juin 1967. C'est-à-dire le 67, c'est lorsque Israël a occupé la deuxième partie de la Palestine. Soit près de 20% de la population des territoires occupés, des territoires occupés palestiniens, ce qui reviendrait à 12 millions de Français si on était en France. Imaginez qu'en France, il y aurait 12 millions de personnes qui auraient été en prison. 3 000 le nombre de prisonniers participant au mouvement de grève de la faim en cours, qui vient de se passer, qui vient de se terminer, 3 000. 77 le nombre de jours de grève de la faim, de particulièrement de un certain Bilal Diab et Taher Halale, qui est toujours d'ailleurs en cours, le 14 000. Au 14 000. Quelques autres chiffres. 7 minutes est la durée de visite accordée à la famille de Bilal et Diab lors du 66e jour de grève de la faim. 7 minutes. Après avoir fait 66 jours de grève de la faim, sa famille a été autorisée de le voir pendant 7 minutes. 27, le nombre de députés palestiniens actuellement emprisonnés. 27. Il n'y a pas des milliers de députés palestiniens. Donc Israël emprisonne aussi le député de l'administration avec lequel il est censé faire la paix, négocier, machin. Mais c'est pas tout ça, c'est pas la faute seulement d'Israël aussi. Hein. C'est aussi la faute des Palestiniens d'avoir... fait ce qu'il ne fallait pas faire. Soit près de 20% de parlementaires, c'est comme si on avait emprisonné 20% de parlementaires français. 218, le nombre de détenus mineurs en mai 2012, parmi lesquels 33 âgés de moins de 16 ans. 527, le nombre de prisonniers condamnés à la perpétuité. 527. 449, le nombre de prisonniers condamnés à des peines supérieures à 20 ans, hors perpétuité. 67 fois la perpétuité. 67 fois la perpétuité. La condamnation record prononcée contre Abdallah Barghouti. Je ne sais pas, vous avez entendu sans doute ce nom de responsable palestinien politique. Marwan. Le 31 novembre 2003. 308, le nombre de prisonniers en détention administrative, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sans charge et sans procès renouvelable à l'infini, tous les 6 mois. 6 ans le temps record passé en détention administrative par Salim Ayesh entre 2001 et 2007. 3 ans et 2 mois le temps passé d'isolement par Ahmed Saadat, secrétaire général de FPLP, toujours en cours le 4 mai. 477 le nombre de prisonniers libérés lors de la première étape de l'échange avec Chalit, un échantillon représentatif de la population carcérale. Détenus depuis en moyenne 14 ans, 20% d'entre eux détenus depuis plus de 20 ans. 162 d'entre eux avaient été arrêtés avant les accords d'Oslo en 1994. 54 durant les années Oslo. Maintenant, on parle des années Oslo chez les Palestiniens. C'est la deuxième ou troisième Nakba, c'est Oslo. Entre 1994 et 2000. 251 depuis septembre 2000. 470 le nombre de Palestiniens arrêtés dans les deux mois qui ont suivi la libération de 477 le 18 octobre au décembre 2011. 470. 9542, le nombre de Palestiniens du Cisjordanie différé devant les tribunaux militaires israéliens pour la seule année 2010. 99,7, le taux de condamnation de ces tribunaux militaires en 2010. Je vais m'arrêter là. Voilà un état qui vous avez compris comment elle fait avec les gens. Et jamais moi ici en France n'ai entendu ou vu qu'on discute en tant que politique, puisqu'on revient sur la classe politique, sur ces questions-là, ou qu'ils contestent, ou qu'ils protestent, quoi que ce soit.